s'appelle la littérature jeunesse aujourd'hui, enjeux contemporains, que peut-on dire aux enfants, avec sur notre plateau des auteurs qui parlent plutôt, enfin tout le moins qui ont fait des livres plutôt pour la jeunesse. On va s'interroger pour savoir si on peut tout dire dans les livres aux enfants, quel que soit leur âge, si on peut parler de violence, si on peut parler de sexe, si on peut parler de politique, si on peut parler de religion, un petit peu tout ça, même si a priori on a tendance à dire oui. On va quand même un petit peu gratter. On va faire un petit tour de table rapide. Donc, voilà, complètement à mon extrême de l'autre bout de la table. Hein, celle qui est arrivée en retard. Nathalie Legendre. Nathalie Legendre, son nouveau livre s'appelle Écoute de battre mon cœur, qui vient de sortir. On parlera aussi des orphelins de Nadja. On a une petite histoire à vous raconter là-dessus. À ses côtés, Daniel Martinigol. Alors, on a Daniel, on va parler de Sens interdit, notamment. Et ça tombe bien, parce que Daniel l'a écrit avec Alain Grousset, qui est juste à côté, dont vient de voir une réédition de La Guerre des livres.
Oui.
C'est ça. Donc, on en discutera un petit peu, on parlera aussi de guerre. Est-ce que, dans les romans jeunesse, comment est-ce qu'on met en scène la guerre? Et est-ce qu'on peut aller aussi loin que dans des romans pour adultes? Nous avons Marie-Hélène Delval, enchantée, on va parler notamment des chats et des dragons. Et puis André-François Ruault avec Chronique du Monde Noir, qui est également éditeur, tout comme Marie-Hélène Delval devait être éditrice. Éditrice à la retraite, tout comme Alain.
Au chômage.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler de chômage aussi? Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein, on va faire un tour de table, on va discuter avec, avec tout le monde. On va peut-être faire un petit tour de table, simplement savoir quand les auteurs écrivent, notamment pour la jeunesse, est-ce qu'ils pensent au lecteur dans l'acte d'écrire, en se disant, bah, tiens, ça c'est un roman plutôt pour, par exemple, les 6-12 ans, et donc il y a des choses que j'aborde ou j'écris de telle manière, comment ça se passe? Est-ce qu'on pense au lecteur quand on écrit? Qui veut répondre?
Moi, je veux bien.
Eh, vas-y.
Je dirais que ça dépend du roman, dans le sens où on m'a demandé, il y a 2 ans, d'écrire deux petits romans pour une collection qui initie les primaires à la science-fiction. Donc là, oui, immanquablement tu sais. Mais sinon, quand c'est une écriture totalement, je vais dire, hasardeuse, au départ, moi, je pensais que j'écrivais principalement pour la jeunesse, et je me suis rendu compte qu'au fil de l'écriture, mon écriture a évolué, que mes messages ont évolué, que les enjeux ont évolué, au point que j'ai écrit un roman qui s'appelle Imago, et je tenais à écrire, c'est pas vraiment une suite, mais c'est une sorte de diptyque, à écrire un autre roman qui explique le pourquoi du problème d'un personnage secondaire dans Imago. Donc j'ai écrit ce roman, qui est pour moi destiné pour les grands ados, pour la jeunesse, et en l'écrivant, enfin, en ayant fini de l'écrire, je me suis aperçue que finalement la problématique n'était pas pour la jeunesse, c'était vraiment pour adultes. J'ai demandé confirmation à l'éditeur, et l'éditeur m'a dit oui, non, c'est un jeunesse, ça n'a pas sa place, pas que ce soit cru, pas que ce soit... C'est parce que l'enjeu qui est à l'intérieur, c'est plus du domaine psychologique d'une femme de 40 ans qui s'interroge sur la vieillesse. Elle n'a pas envie de vieillir, elle va participer à un programme dit jeunesse éternelle, et évidemment ça foire. Moi j'aime bien quand les programmes scientifiques foirent, j'adore ça, pour montrer les dérives un petit peu. Et c'est toute cette réflexion là sur est-ce que j'ai envie de vieillir, pas vieillir, c'est quoi la vieillesse, c'est quoi vieillir, voilà. Donc effectivement là, quand on finit de l'écrire, on se dit bah ouais, non, ça peut pas forcément être pour la jeunesse.
Et du coup il est paru, ou est-ce que tu l'as remodifié? Un autre livre.
Non, je l'ai laissé tel quel, j'ai juste peaufiné là parce que bon, il me manquait quelques éléments, et j'espère qu'il sortira l'année prochaine. Cette année ce serait cool, mais l'année prochaine.
Même question à Daniel.
Moi j'ai toujours eu la sensation d'écrire pour des élèves de niveau collège. Je me suis un petit peu forcée à descendre en âge quand, avec Alain, on a écrit quelques-uns de nos ouvrages qui sont plus abordables au niveau primaire. Mais moi, mon lectorat cible, enfin naturel en fait, ce sont les élèves de collège. Donc j'ai certains de mes livres qui sont peut-être, disons, plus pour les niveaux 6e, 5e. Mais je me rends compte au fur et à mesure de l'évolution de mon écriture que je monte en âge et que je vais jusque vers les 4e, 3e et peut-être même un peu au-delà. Je tends à aller vers de l'écriture plus adulte aussi. Ça semblerait chez moi être une pente naturelle que d'aller vers un roman pour adulte dans un avenir proche. Quoi. Ça me trotte dans la tête depuis pas mal de temps et il va falloir que je m'y mette. Hein. Mais c'est un pas relativement difficile à franchir en ce qui me concerne. Parce que j'ai quand même écrit tellement de romans pour justement un lectorat adolescent que c'est un peu un défi. Hein.
C'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire écrire un roman pour adolescent, pour 5e, 6e? Est-ce que c'est sur le style? Est-ce que c'est sur les idées qu'il y a dans le roman?
Un peu les deux.
Comment tu fais la différence?
Un peu les deux. Je me rends compte qu'en fait, il y a des thématiques qui sont plus abordables. Pour moi, il n'y a pas d'âge. En fait. Je veux dire, il n'y a jamais. Je trouve ridicule d'ailleurs qu'on mette un âge sur les livres. Mais en fait, pendant très longtemps, les éditeurs ont fait ça. C'était un créneau qui était 10-12 ans, etc. 14-16. Bon, on sait très bien que les éditeurs mettent ce genre d'indications au dos des livres, principalement pour leurs commerciaux, de façon à ce qu'ils sachent exactement à quel rayon les conseiller dans les librairies. Mais c'est, oui, c'est peut-être sur le vocabulaire, la difficulté éventuellement de construction des phrases, enfin l'inspiration. Le dernier roman que j'ai publié, Cantoria, je sais qu'il est relativement haut en âge. Je sais que c'est un livre qui serait presque ce qu'on appelle young adult maintenant. C'est-à-dire, alors ça c'est pareil, c'est un créneau d'âge qui est très difficile à définir. Qu'est-ce qu'on appelle les jeunes adultes, hein, mais oui, c'est certainement à la fois l'inspiration, enfin la thématique et l'écriture en tant que telle. Donc quand on revient, il y a un tel vocabulaire difficile sur la musique, par exemple, c'est pour ça que je suis très contente que la petite ait introduit aussi notre débat avec de la musique, que bon, ça ne semble pas accessible tout de suite aux plus jeunes.
Alain, une question ?
Pas mieux.
Pas mieux. Merci.
Non, pas mieux, parce qu'on a écrit 25 bouquins ensemble, on est calés ensemble. Moi, effectivement, aussi, je m'adresse aux années collège. Pourquoi ? Parce que c'est plus petit que pour les adultes. Alors moi, plus je suis débarrassé d'une histoire, plus je peux me lancer sur la suivante. Donc 150 000 signes vont à la perfection. Donc c'est pour ça que j'ai écrit aussi. Et puis j'aime toujours garder dans ma tête, écris ce que tu aurais aimé lire. Et au moment de cette découverte de la lecture, je trouve que le collège, là, on est, tout est ouvert et on sent qu'on va commencer à choisir parmi cet éventail de littérature qui s'offre à nous. À un moment, on va plonger, moi je vais plonger dans la SF, mais d'autres vont plonger dans l'historique, vont plonger dans la fantasy. Mais on est là, on est au bord de ce précipice, mais qui n'est pas dangereux. Mais voilà, tout est ouvert, on a envie de tout lire, on va à la bibliothèque, on prend les livres, on n'a pas trop d'a priori, et on tombe là-dessus. Quoi. Voilà. Donc c'est cette période-là m'intéresse beaucoup. Voilà.
Et quand tu étais directeur de collection, notamment du Crony, est-ce qu'il y a des choses que tu demandais particulièrement aux auteurs en fonction du public visé?
Non. Honnêtement, j'essayais d'être...
Hein,
non, c'est pas
ça.
Cher.
Non.
Non, mais parce que si on commence à donner tout un tas de trucs, on bride le bien qui est en face. Bon, après, on peut, au moment de la lecture, effectivement, peut-être bien recadrer sur certains trucs ou faire développer une scène ou un personnage, justement. Très souvent, on s'aperçoit qu'on a des personnages principaux, puis d'un seul coup, là, ces personnages secondaires, ils sont bien intéressants aussi. Alors, bon, des fois, on peut dire, mais dis donc, pourquoi tu en mets pas plus, là? Parce qu'il est bien intéressant, ton gars. Toi, t'as envie de continuer, de refaire un roman avec ce bon personnage. Quoi.
Voilà. Marianne.
J'ai commencé à écrire il y a plus de 30 ans maintenant, pour les petits, volontairement, parce que rien ne m'avait destiné à écrire, sauf mon goût pour les livres, mais enfin, je ne pensais pas du tout devenir écrivain. Et puis, en tant que jeune maman, comme beaucoup de mamans, je lisais des histoires à mes enfants. Et j'étais vraiment très frappée par certains textes qui étaient d'une excessive simplicité, avec que des mots simples, que des phrases simples, toutes courtes, des histoires toutes courtes. Et moi, adulte qui le lisais à mes enfants, ces histoires quelquefois me bouleversaient. Et puis, je les trouvais merveilleusement écrites. Il y avait une poésie, il y avait un rythme, il y avait une musicalité. Et alors c'est là que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'aimerais savoir écrire comme ça. Et bon, il s'est trouvé que je suis rentrée en relation avec la maison Bayard, qui cherchait des textes à cette époque, etc. Je me suis lancée dans cette écriture. Alors, pour dire que... Alors, bien sûr, quand on écrit, quand on sait qu'on va écrire pour des 3-5 ans, on n'écrit pas du tout de la même façon que quand on va écrire pour des ados, bien sûr. On va choisir ses mots, on va essayer de faire une syntaxe simple, on va faire des histoires courtes, mais ce qu'on va raconter, c'est tout ce qu'on veut. Ça peut être très, très, très fort, ça peut être... On m'a demandé un jour d'écrire une histoire pour les petits sur la mort subite du nourrisson. J'avoue que sur le coup, je dis, ben, écoute, je vais y réfléchir. Je l'ai écrite. Donc, alors, il y a une part de technique, forcément, il y a une part de technique. Et puis, il y a je ne sais pas quoi qui fait que quand on est auteur, ben, je pense qu'on a un certain sens des mots, que ça se travaille d'ailleurs. Et que tout est dans la... alors, je cite souvent une phrase que tout le monde connaît parce que c'est dans un chef-d'œuvre universel qui s'appelle Max et les Maxi-Monstres. C'est la meilleure définition de comment écrire simplement et être fort. Écoutez cette phrase. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. Ça fait un effet extraordinaire. Et c'est que des petits mots tout simples et une phrase toute simple. Alors, bon, j'ai écrit longtemps pour les petits, je suis passée ensuite à l'écriture pour les plus grands. Par certains côtés, c'est plus facile, parce qu'on a moins de contraintes techniques, justement. Mais, voilà, donc, en effet, il y a des techniques. En dehors de ça, c'est quand même toujours le même auteur, je crois, qui se laisse aller avec sa sensibilité, avec ses questions, avec son vécu.
André ?
Au départ, j'ai écrit sur commande des albums illustrés, des gros albums illustrés que j'ai coécrits, j'en ai écrit 6, que j'ai coécrits avec Fabrice Collin, et les premiers étaient des commandes. Donc l'éditrice nous a dit, voilà, je veux pour avant-hier un ouvrage, elle a dit à Fabrice Collin, je veux pour avant-hier un ouvrage pour 9 ans sur Merlin, patati patata. Donc Fabrice a dit... oui, alors pour avant-hier, je vais quand même le faire avec André, parce que tout seul, ça va être un peu difficile. Donc d'emblée, on était légèrement calibré, puisqu'il fallait que ça soit 8-9 ans, plutôt 9 ans. Donc il a fallu apprendre, Fabrice n'avait jamais écrit pour aussi jeune, et moi non plus, évidemment. Donc il a fallu apprendre ce que vous disiez, savoir une certaine forme de simplicité, sans donner l'embébête. Et puis... par contre, le prochain, ça sera plus un défi, du coup, et c'est une idée à moi, parce qu'il sera pour les 7 ans. Alors là, ouais, là, beaucoup plus difficile, ouais, vraiment, là, alors qu'il va être très très court, ça va être 64 pages, c'est donc plein de trucs qui se déplient et tout, donc il n'y a pas tant de textes que ça, mais ça va être du concentré, ça va être plus difficile pour nous de faire ça. Enfin, ceci dit, c'est moi qui ai eu envie. Voilà, donc, enfin, je suis peut-être pas zo, mais c'est un exercice intéressant. La seule fois où j'ai eu mal très relatif à me caler sur un âge, c'est sur les années collège, justement. J'ai fait 2 polars, et j'avais décidé que c'était dans un collège où mon fils était étudié. Sauf que lui, il était, je crois, il avait 20 ans, un truc comme ça, enfin 19 ou 20 ans, donc il était déjà vieux. Or, je me suis basé sur les histoires qu'il me racontait, le fait que j'allais de temps en temps dans cet établissement, et je trouvais que c'était un établissement qui était un espèce de lieu cool. Dès la première fois que j'y ai été, je me suis dit, oh, je vais faire un polar, là. C'est une espèce de petit Oxford, Cato, sur les hauteurs de la Croix-Rouge. Je me suis dit, non, c'est un lieu incroyable, sous Chartreux. Et en fait, à trop écouter mon fils, mes personnages étaient certainement un petit peu trop âgés. Dans la musique qu'ils écoutaient, dans certaines expressions qu'ils utilisaient. Et puis surtout, je me suis, j'avoue que je me suis planté dans l'organisation scolaire. Je me rappelais plus que ce n'était pas tout à fait pareil au collège qu'au lycée. Donc, oups. on a des éditrices pour ça aussi, hein. Donc l'éditrice, gentiment, m'a dit « Ah non, mais là, c'est pas comme ça. » Voilà, j'ai retouché un peu, j'ai un peu simplifié. Et j'ai eu, par contre, aucun problème pour écrire le deuxième. Voilà, je m'étais bien recalé dans ma tête sur, effectivement, les années collège et pas lycée. Voilà.
Une petite question, alors une question ouverte. Hein,
Ah, pardon, je voulais poser une question à Nathalie. Mais il va paraître en adulte, alors, ton roman ? Ou en jeunesse, parce que tu n'as pas expliqué.
Normalement en adulte.
Oui. D'accord.
Là, c'est, vu comme je l'ai retravaillé, c'est impossible de me mettre en jeunesse.
Ok.
Une petite question pour... parce que tous nos auteurs ont un petit peu d'expérience. Du coup, et les années passant, est-ce que vous écrivez de la jeunesse aujourd'hui comme vous en écriviez hier, que ce soit dans les thématiques, dans les enjeux, justement, contemporains, ou dans l'écriture elle-même ? Est-ce que c'est la même... Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Est-ce que ça a évolué, tout ça, voilà.
Moi, oui, ça évolue au niveau de l'écriture. Je sens une évolution, on me l'a dit aussi. J'en suis bien contente. Mais parce qu'on apprend, on apprend tout le temps. J'ai jamais appris à écrire. C'était tellement naturel pour moi que je le faisais comme ça. J'ai commencé en écrivant aussi des contes, parce que je contais beaucoup à mes enfants, parce que je suis passionnée par le théâtre, par les contes. Donc c'est une facilité aussi qu'on peut avoir quand on écrit. Mais au niveau après des enjeux, des messages, bon, ça je reste toujours pareil, j'ai toujours mes choses à dire sur l'humain et ce que j'en pense. Un peu moins violemment que j'ai pu faire à une certaine époque, parce que je pense qu'il y a certaines colères qui se sont dissipées. Mais après, c'est le travail de l'auteur sur lui-même, sur sa personnelle qui est propre, et c'est nos expériences aussi qui font qu'on évolue et que, ben voilà, obligatoirement, nos romans vont paraître totalement différemment qu'il y a 10 ans, par exemple.
Oui, ça, c'est une évolution personnelle.
C'est une évolution personnelle. Pour moi, c'est l'auteur, de toute façon, qui fait le bouquin. Si l'auteur évolue, d'une certaine façon, les bouquins vont évoluer aussi. Enfin, c'est comme ça que je vois ça.
Les gamins n'ont pas changé.
Les gamins n'ont pas changé, non.
Ou les demandes des éditeurs.
La demande des éditeurs, mais ça, je me fous royalement de la demande des éditeurs. Moi, ce que j'ai envie d'écrire, j'ai des projets qui me tiennent à cœur et j'y vais. Maintenant, l'éditeur, ça lui plaît pas, j'en trouverai bien un autre.
Daniel et Hélène.
La seule chose que j'ai changée, moi, dans mes livres, c'est en rapport avec la technologie, en fait. Ouais. Quand j'ai commencé à écrire, Internet n'existait pas. Ça paraît complètement fou, mais enfin, bon, je parlais d'Ordicom dans mon premier roman pour dire que. Mon héros laissait un petit message avec un clavier sur un espèce de machin un peu bizarre, avec un autre bout du système solaire. Son père recevait le message. J'avais appelé ça un Ordicom. La réalité virtuelle n'existait pas. Donc j'ai appelé ça les vidéo-jeux dans l'or bleu. Enfin bon, je précise qu'il n'y a pas d'employé. L'expression réalité virtuelle, elle n'existait pas. Bon, alors donc, avec le temps, il y a des choses qui font que petit à petit, j'ai été obligée de m'adapter pour pas que les romans datent trop, sans parler pour autant d'Internet, parce que moi c'est un réseau galactique, ça s'appelle le RES et c'est tout. Hein. Mais au moins, je sais de quoi je parle et je veux que mon lecteur s'y reconnaisse. Ça a été obligatoire, parce que la science-fiction vieillit quand même. Quelque part, on ne peut plus écrire la science-fiction de nos jours exactement comme on l'écrivait il y a 5 ans.
Pas mieux.
Vous allez comprendre pourquoi il écrit avec moi.
Bien sûr que la science-fiction vieillit même très très, très vite. Mais ceux qui racontent les histoires qui se passent aujourd'hui, leur texte vieillit aussi à une vitesse grand V. Alors nous, la technologie pour écrire aussi a changé. C'est vrai que un ordinateur nous a permis d'avoir un brouillon propre tout le temps, et qu'on puisse corriger très facilement, s'envoyer les textes. Parce que bon, avant, on était au Tippex, les doigts blancs, et puis la machine à écrire... que je n'ai pas pu me résoudre à jeter, était toujours au grenier en me disant « L'ère post-atomique va arriver, je pourrais continuer à écrire. » Donc ça aussi, Internet, bon, la communication, ce qu'on écrit ensemble, c'est vrai que ça en est facilité. Après, effectivement, je pense que les référents des nouveaux auteurs ne sont pas les mêmes que nous. On est formaté années 50, ils sont... beaucoup plus jeunes, donc on va peut-être faire plus référence à des films plutôt qu'à des livres. Du coup, leur écriture risque d'être plus saccadée, c'est-à-dire laisser juste des séquences étroites et rapides, plutôt que trois pages de description, ça c'est sûr. Donc là aussi, il y a une adaptation à faire aussi en même temps. En plus de notre artisanat, 20 ans d'artisanat, après on a nos petites recettes chacun, mais aussi on essaie de l'améliorer en permanence. Ouais.
Est-ce que. Enfin, non, mais. Est-ce que la.
Tant mieux.
Est-ce que vous, par rapport justement aux éditeurs, au monde éditorial, par rapport aux élèves, est-ce que vous vous sentez plus libre ou moins libre dans ce que vous écrivez? Est-ce que les choses ont changé, évolué? Est-ce que la littérature jeunesse d'aujourd'hui est la même que celle d'hier?
Bon, moi je vais peut-être faire un peu de provocation, mais elle a un gros problème, c'est qu'elle est entièrement faite par les femmes.
La preuve.
Ouais. Là, je ne me suis pas rasé, mais avant, je me suis rasé. Non, mais sans rire, et ça, c'est une incidence. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit qu'on part déjà du constat qu'il y a plus de lectrices que de lecteurs, donc on va déjà féminiser plus les histoires. Et en plus, donc, il y a 80-90% d'éditrices plutôt que d'éditeurs. Donc du coup, là, par exemple, nous, auteurs de science-fiction, on a des fois un petit peu de mal. Non, ça chauffe. Et donc ça aussi, ça a une influence. Hein, parce que bon, dernièrement, moi, on m'a dit, Alain, tu veux nous écrire un livre? 50 bouquins, donc 49 de SF. L'éditrice me dit, mais pas de SF. Donc, vous demandez à un artisan qui sait bien faire de SF d'écrire un autre livre, mais surtout pas de SF. Donc, on en est encore là. On n'a pas une évolution constante, alors qu'on pourrait penser qu'effectivement, il y a des films comme Avatar et tout, ça y est, le problème est réglé pour une fois. Tout le monde aime ça. Il y a des millions de Pékins qui ont été voir le film. Donc, la SF, c'est bon, c'est acté. Et non, non, ça l'est pas. Voilà.
Non, c'est là, c'est où le problème de l'écriture féminine, c'est ça que tu es en train de dire? C'est quoi le truc? Non, parce que hier, on a eu une conférence sur l'écriture féminine, on s'est bien éclaté. Donne-moi donc ta version, c'est quoi une écriture féminine?
C'est pas que je dis que c'est une écriture féminine, c'est qu'il y a un reflet peut-être un peu plus important de textes qui vont s'adresser à des filles plutôt qu'à des garçons. Pareil.
Tu crois pas?
Je savais que j'allais lancer le débat.
Je suis une fille et je mets du James Bond sans problème. Enfin, je veux dire, ça ne me dérange pas de voir un film de Bruce Willis et j'en suis heureuse. Et à côté de ça, je vais lire des histoires d'amour. Enfin, c'est quoi une littérature pour les filles? C'est quoi une littérature pour les garçons?
Pardon, je comprends.
En plus, moi, je me disais que quand on. Pour la jeunesse en plus, j'aurais tendance à dire qu'il y a encore moins de différence d'une certaine manière.
Ben non, enfin moi c'est parce que je vis, hein. Bon après je vais pas me parler de ça. Parce que sinon, oui, parce que
on va rentrer en thème.
André était planché.
Moi j'aimerais bien enfin, en fait Alain parlait, me semble-t-il, surtout d'éditrice par des écrivains. Moi j'aimerais bien avoir un éditeur en jeunesse. Parce que j'ai eu des filles. J'ai eu trois éditrices. Et pour répondre à la question d'origine, celle de Jérôme, moi j'écris pas assez, j'écris que depuis 6 ans en jeunesse, donc je n'ai pas vu d'évolution, je ne me suis jamais senti libre. Les trois éditrices en question, elles sont. Enfin, nous cadrent de manière assez amusante. On est tout le temps en train de lutter. Enfin, pas trop sur les polars, sur les deux polars, qui étaient chez Mongo. Mais chez Hachette, on lutte continuellement. Donc le sujet, c'était la censure, enfin, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Non. Non, chez Hachette, enfin, on y arrive, mais c'est... continuellement...
Ça dépend des éditeurs.
Oui, moi, je n'ai pas d'autre expérience qu'avec cette fille de chez Hachette. Donc moi, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir des expériences avec d'autres éditrices et d'autres éditeurs, voir comment ça se passe, si c'est moins cadré que chez eux ou faux... Mais d'après Fabrice Collin, qui lui a une énorme expérience, parce qu'il a bientôt publié chez tous les éditeurs possibles et imaginables, il dit que c'est les pires. c'est pas qu'elles soient odieuses du tout, hein, je vais pas dober sur mes éditrices, je suis super content de faire ces bouquins, mais elles ont vraiment des carcans, des demandes, etc.
En fait, c'est pas
Faut pas que le vocabulaire soit trop compliqué. Alors, on lutte pour que quand même, il y a des mots. C'est écrit pour les 9 ans, quoi. Donc, on estime que il faut pas être trop macabre. Or, Fabrice a une imagination assez macabre. Dans le dernier, c'est moi qui fais le coup. En plus, vraiment, c'est le hasard. C'est pas Fabrice cette fois-ci. Dans le dernier, dans les personnages qu'on mettait en scène, il y avait un corbeau aveugle qui est un voyant qui prédit l'avenir. Et l'éditrice n'a pas voulu. Enfin, j'ai écrit ce morceau de texte-là, et l'éditrice l'a refusé parce que c'était trop macabre, ça allait faire peur aux enfants. Oui, je suis d'accord. Et alors, heureusement, là, cette fois-ci, parce que d'habitude, c'est Fabrice, dans notre duo, qui a ces problèmes-là, de macabre. Là, l'image me s'est imposée à moi tout bêtement, quoi, ce corbeau avec les yeux blancs. Mais ça a plu à l'illustrateur, qui est arrivé un peu tardivement sur le projet. Et là, sur cette image-là, là, il était à fond, il voulait absolument la faire. Du coup, il l'a faite, et illustration et texte sont passés. Quoi. Voilà, mais
C'était plus une remarque en fait, parce que je trouve ça amusant en parallèle de constater qu'un bouquin comme Projet Oxatan par exemple de Fabrice, qui est lui-même un roman qui est assez glauque en fait, assez angoissant, a été un best-seller, a été porté au nu et même étudié en classe aujourd'hui.
Ah, mais alors, je pense que ces éditrices, elles ont tort en cela. Et même par rapport à l'humour, elles ont des préventions. Ce qui me paraît incroyable en jeunesse, hein, mais.
Mais je pense pas pour. Pas de macabre et pas d'humour, bah alors c'est.
Là, je mets mon petit grain de sel en tant qu'ancienne éditrice. Moi, je sais que. Bon, moi, j'étais aux éditions Bayard. Mes exigences. J'avais des exigences vis-à-vis des auteurs. Très fortes.
C'est normal.
Mais les exigences portent sur la cohérence du texte. Sur sa logique, sur si on fait arriver, mettons, un corbeau aveugle aux yeux blancs qui prédit l'avenir, pourquoi pas, moi j'ai rien contre, à condition que ce soit logique avec l'histoire. Si ça apporte quelque chose d'important à l'histoire, je vois vraiment pas où est le problème. Donc les exigences, je continue, bon, là maintenant, quand je travaille en tant qu'auteur, j'ai donc une éditrice référente à Bayard je suis époustouflée toujours par ça. Sa précision de sa lecture. Elle voit, nous auteurs, quand on a travaillé 2 mois, 3 mois sur un texte, on ne voit plus rien. On a beau avoir travaillé, on peut relire 10 fois le même passage, il y a une répétition gros comme le nez au milieu de la figure, à 3 lignes d'intervalle, on ne la voit pas. Bon, donc on a vraiment besoin de l'œil neuf de l'éditeur ou de l'éditrice qui va voir ces trucs-là et qui va voir tout de suite, là il manque une information, là pour moi c'est clair, mais pour elle non, parce qu'elle découvre. Donc ça, ce sont les exigences qui sont nécessaires.
Mais ça, c'est un vrai travail.
Voilà, oui, ça, c'est un vrai travail sur le texte. Mais sinon, voilà. Alors, bien sûr, peut-être que quand on écrit en jeunesse, on se censure un tout petit peu, mais pas tant que ça. Dans le roman que j'ai écrit, Les Chats, qui est un roman fantastique, il y a une scène très violente où un des héros va mourir d'une façon particulièrement atroce. Je me souviens très bien du moment où j'ai écrit cette scène. Je l'ai écrit dans un espèce d'état second. J'ai écrit ce chapitre, mais d'une seule traite. Je suis arrivée au bout du chapitre, qui en plus se termine par le mot désespoir. Je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens d'écrire ? Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, bon, j'écris ça quand même pour des jeunes lecteurs. Est-ce que ça n'est pas trop violent ? J'ai laissé reposer, j'ai relu, et je me suis rendu compte que c'était parfaitement logique. Mon histoire ne pouvait pas ne pas passer par là. J'ai laissé, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, moi, je croyais que ce roman allait s'adresser à des enfants à partir de 12 ans. À ma grande surprise, les premières invitations que j'ai eues, c'était que des classes de CM2. Et au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis, si. Donc, la violence, elle peut passer à condition que ce soit logique, que ce soit pas gratuit, que ce soit... pas de complaisance, voilà. Dans ce roman, ça pourrait être un roman très sanglant, parce qu'il y a des chats maléfiques qui égorgent des bêtes. On ne voit jamais, je ne décris pas ces scènes-là. Si on était au cinéma, on ne verrait pas. On entendrait un cri, mais on ne verrait pas. Ce que je déteste au cinéma, dans le cinéma d'horreur, par exemple, c'est des flots d'hémoglobine. Bon, ça peut être rigolo, mais... parce que c'est pas utile. On a infiniment plus peur dans un film de Maurice Tourneur où on ne voit rien et où on entend seulement un bruit dans l'ombre que quand on voit des choses atroces sur l'écran. Mais tout est là. C'est dans la logique de l'histoire. Si c'est dans la logique de l'histoire, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai un petit problème en ce moment quand même. Je suis en train d'écrire une série qui s'appelle Les Dragons d'Al-Sahara. Et là, je vais vers des épisodes où il va y avoir la guerre. Et j'ai un peu la trouille de l'écrire. Je me rends compte, je pensais terminer cette série à l'épisode 18, et je me suis aperçue en écrivant le 17 que non, j'allais avoir besoin de plus de temps. Et pourquoi je vais avoir besoin de plus de temps? C'est parce que je recule le moment où je vais arriver dans les scènes les plus violentes. C'est pour des jeunes lecteurs, c'est pour à partir de 8-9 ans. Je vais les écrire, hein, pas de problème. Et puis en plus, c'est logique, il faut que ça se termine comme ça. Mais je vais faire gaffe quand même. Je vais faire gaffe.
Alors on a commencé à rentrer dans le. Oh, je l'ai éteint. Donc on a commencé à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, sur la violence, et la violence dans les romans jeunesse. On va parler de sexe aussi, notamment avec la fille. D'abord, peut-être une réaction, parce que je te voyais un petit peu réagir, et puis qu'on parle justement des Orphelins de Nadja, qui est un roman où il y a une scène de viol, alors qu'elle avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais c'est intéressant aussi que tu nous expliques pourquoi tu as mis ce viol dans ce roman, et comment tu l'as fait, au-delà de toute l'histoire éditoriale.
Et comment je l'ai fait, c'est-à-dire
Là, par exemple, on parlait de violence, mais sans centre, là.
Pourquoi mettre une scène de viol dans un roman? Ben déjà, c'est pas compliqué. C'est un roman qui dénonce la pédophilie au sein de l'Église, plus les enfants soldats. Étrangement, j'ai eu beaucoup plus de problèmes. Enfin, j'ai eu énormément de problèmes avec la religion, absolument pas avec avec l'armée. Alors, pourtant, j'en ai foutu là la tronche. Une scène de viol dans un roman comme ça, pour moi, paraissait logique. C'est une jeune fille qui se fait violer par son tuteur, qui pense que c'est pour son bien, parce qu'à partir du moment où elle est violée, elle pourra plus être mise dans certains endroits. Donc je dis que, enfin, le violeur, son tuteur, dit que bah, c'est pour son bien. Effectivement, quand on lit que le violeur fait ça pour le bien de la violée, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas possible. Mais il faut expliquer à côté que, même si pour moi c'est normal, c'est logique, un violeur, déjà, s'il viole, c'est un monstre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Mais si en plus je dis que c'est presque complaisant, donc ça va pas. Il faut bien expliquer pour la jeunesse que ce personnage-là, il est malade. Donc ça, il faut l'expliquer. Ce serait pour un roman adulte, il n'y aura pas besoin de l'expliquer. La scène de viol, je l'ai écrite tout à fait normalement. Je n'aime pas être complaisante. J'aime pas mettre de la violence ou du sexe ou du viol gratuitement. J'essaie de le faire le plus softement possible, sauf que ça reste une scène de viol. Je l'ai fait lire à mon fils de 15 ans à l'époque, et quand il... J'attendais, je me suis dit, mon Dieu, comment il va réagir? C'est ce que je me suis vautré ou pas? Il finit de lire la scène, il me regarde, bah, quoi? Je dis, bah quoi? Bah dis pas, dis-moi, est-ce que c'est trop cru? Est-ce que ça t'a choqué? Il me dit, bah non, c'est une scène de viol. Donc, d'accord. Enfin, je reviens à ce que tu disais, éviter de tout montrer, par exemple au cinéma, tout ça. Il faut bien garder à l'esprit que l'imagination est beaucoup plus forte que le visuel, et l'imagination peut nous conduire à des trucs terribles. Dans Les Larmes de Gaïa, j'ai décrit une scène qui est très très importante pour moi, et j'ai extrêmement de mal à la décrire, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Mon héroïne, enfin mon personnage principal, est dans la chambre avec sa petite sœur de 2 ans, et elle entend son beau-père qui est en train de frapper et essayer de vouloir violer sa mère. Elle ne fait qu'entendre. C'est le pire. Et c'est ce que j'essaie de décrire. C'est ce qu'il y a de pire, mais c'est terrible. Autant voir, là on sait. Mais quand on est un enfant, l'imagination, mais c'est catastrophique. Mais donc j'essaie de faire les scènes
violente ou de sexe le plus soft possible. Donc scène de viol, je peux pas être poétique. Une scène de sexe, oui. Donc on peut décrire une scène de sexe et la faire la plus belle possible sans non plus que ce soit cru. Par contre, c'est vrai qu'il y a des éditeurs, bon, là, pour écouter battre mon cœur, il y a une scène une scène d'amour, la première fois, et ne serait-ce que le sexe dur contre le ventre de la jeune fille, ça, apparemment, ça passait pas. Alors, je ne sais plus comment je m'en suis dépatouillée, mais j'ai réussi à détourner. Voilà, bon, c'est, pour moi, c'est pas dramatique. Bon, bref, tout ça pour dire que les orphelins d'Agen, quand on tape sur la religion, on se fait taper sur les doigts.
Nous, on a eu le problème inverse avec le Marion, justement, parce que dans Sens interdit, on a soumis le manuscrit à nos éditrices, et puis... Il y en a une des deux qui nous a dit « Vous avez fermé la porte de ma chambre à coucher, c'est dommage. » On est resté un petit peu sciés tous les deux. Mais attendez, là, on a le droit de ne pas fermer la porte de la chambre à coucher tout de suite, non ? Elle dit « Ah oui, ça serait bien, etc. » Et alors à vous, qu'est-ce que t'as dit là ? T'as pas dit pas mieux ? Il a dit « Écris-la, cette scène-là. » Je rebondis. Alors ça, c'est interdit, c'est moi qui écris cette scène-là. Il n'a pas voulu s'y coller. Mais donc, s'il y a cette scène-là dans Sens interdit, ça a été une demande de nos éditrices qui ont dit « Ah oui, non mais vous savez, les jeunes maintenant, ils sont quand même avertis, etc. » Donc, bon, elle est très soft aussi, mais elle n'était pas dans le manuscrit initialement. Et puis, juste, j'ouvre une toute petite parenthèse, parce qu'on est toujours dans la façon de traiter ce genre de choses. Moi, dans les abîmes d'outre-mer, je ne voyais pas mes pilotes d'abîmes conduire leur vaisseau autrement que nu. Alors, bon, il faut lire le roman, mais il pénètre à l'intérieur de ce que j'appelle le cerveuil, c'est-à-dire une masse translucide qui a à la fois l'œil et le cerveau de l'animal. Et pour moi, c'était évident que les perles, puisque je les appelle comme ça, pénétraient à l'intérieur de cette masse de l'animal pour le piloter en étant nu. Je ne me voyais pas les mettre avec une combinaison spatiale là-dedans. Enfin bon. Donc j'ai écrit ma scène et je l'ai écrite exactement comme tu évoquais, d'un seul coup, d'un seul jet, enfin parce que c'est comme ça que je la vivais. Et je me suis dit, ça ne passera jamais. Et j'ai dit, bon, après tout, j'ai un éditeur, j'ai un directeur de collection, j'ai un éditeur, je vais voir ce qui va se passer. Et donc, on me renvoie le retour du roman, me disant ça va, on le prend, etc. Et je dis, et la scène de pilotage ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a là, la scène de pilotage ? Je dis, oui, mais enfin, le pilote est nu. Ah, mais non, bah, c'est normal. C'est logique. C'est très. Voilà, c'est logique. Alors, c'est logique. Moi, je m'inquiétais, mais apparemment, ça passait bien. Donc. On a peut-être pas toujours les bonnes interrogations sur ce qu'on écrit, quoi, en fait. On peut s'inquiéter d'un passage en se disant ça passera pas et ça passe très bien. Et à d'autres moments, on a des choses qu'on écrit et on a l'impression que oui, ça choquera pas. Et là, ça peut arrêter. Ça dépend aussi du niveau de nos jeunes lecteurs, hein, enfin la perception de nos jeunes lecteurs. Est-ce qu'il y en a certains qui prendront d'une façon différente ce qu'on a pu écrire, c'est pas facile à doser, hein, c'est sûr.
Marie-Hélène disait tout à l'heure que parfois elle s'auto-censurait, ou tout du moins qu'elle faisait...
Dans les formulations.
Dans la formulation.
Voilà, dans la formulation.
Est-ce que le... C'est pas un écueil, mais est-ce que peut-être de manière naturelle, les auteurs jeunesse parfois s'auto-censurent un petit peu plus que les lecteurs ne peuvent le percevoir ?
Nos héros peuvent faire l'amour, ça commence à la fin du chapitre, ils ont terminé au chapitre suivant, par exemple. C'est-à-dire dans l'épaisseur de la feuille. Et là, l'imagination, à chacun jouer.
L'imagination joue.
Non, je crois qu'on peut, pour revenir à ton débat, on peut écrire tout pour les jeunes, mais pas avec n'importe quel éditeur. Et je pense pourquoi, parce que tout simplement, en face de nous, il y a des gens. Avec leur sensibilité et leur ligne éditoriale, ce qui est des choses qu'ils veulent ou pas dans leur collection. Et à partir de là, ils disent oui ou ils disent non. Donc c'est pas. Il y a ce filtre qui est le filtre premier à franchir avant le filtre du lecteur. Et le lecteur, après, j'allais dire, a un petit peu moins d'importance parce qu'on va tomber dans les statistiques. Il y en a 50% qui vont aimer, puis 50% qui vont pas aimer, ou vraiment tomber dans des délires où là tout le monde est contre, tout le monde est pour. Mais avant, il y a ce premier filtre d'adultes, avec leur vision d'adulte, l'adulte professionnel dans ce métier-là, mais n'empêche qu'ils ont une vision. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire passer, par exemple, si on n'a pas envie, c'est sa propre collection, on n'a pas envie, bon, on n'a pas envie, puis c'est tout. Donc voilà.
En fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que finalement, en termes d'auteur ou d'éditeur, on réfléchit pas presque trop par rapport aux enfants qui, eux, forcément, ne feraient pas attention. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les filtres, c'est pas d'abord nous qui les mettons?
Bien sûr, oui. Et puis il y a, ce que je disais tout à l'heure, l'écrit a encore dans l'esprit des gens plus d'importance que l'image, alors que pourtant l'image est prépondérante. Donc il y a cette espèce de sanctuarisation de l'écriture jeunesse. Et on en parlait, je me rappelle pas quand on avait cette discussion-là, on en a parlé il y a 8 jours, où je disais, ça serait bien de faire une collection pour adolescents, mais vraiment affichée comme telle, une collection cul, quoi, mais vraiment. Et, à condition que ça soit effectivement bien fait, c'est exactement ce que tu m'as répondu, mais si c'est fait excellemment, il n'y a pas de raison, puisqu'il s'interroge. C'est quand même l'adolescence, là, une interrogation sur sa sexualité. Si on ne l'a pas là, on ne l'a jamais, quoi.
Parce que YouPorn le fait, mais sans éditeur.
On n'a jamais eu ça nous est jamais arrivé, enfin, personnellement, ça ne nous est jamais arrivé, mais je crois que d'avoir un de nos jeunes lecteurs qui nous dit « ça m'a choqué ». Par contre, les prescripteurs...
Ah, mais c'est les adultes. Hein,
c'est les adultes, hein, c'est pas les jeunes. Hein. Les jeunes ne nous reprochent rien, Ils prennent, eux, avec justement leur dosage personnel, etc. Nous, ça nous est arrivé une seule fois qu'un de nos livres, enfin d'entendre dire qu'un de nos livres avait été rapporté chez un libraire, c'est parce que l'illustrateur, il était question d'un tyran, et nous avions évoqué que sur les vaisseaux spatiaux de ce tyran, il y avait une espèce de logo particulier qui faisait que... on reconnaissait que c'était les vaisseaux du méchant grâce à ça. Et l'illustrateur a fait en fin de chapitre un petit rond avec un motif qui évoquait une sorte de croix, en fait, etc. Il y a un père qui a rapporté le livre chez le libraire en disant « Il est hors de question que mon fils lise ce livre, il l'avait acheté sur un salon du livre, il est revenu le lendemain le rapporter en disant « parce qu'il y a une croix gammée dessus ». Et ce n'était absolument pas une croix gammée, c'était quelque chose que ce monsieur a projeté dessus. Il y avait l'idée de la tyrannie, il y avait l'idée d'une guerre, et c'était l'illustrateur qui avait interprété, lui, ce logo que nous avions imaginé, sans le décrire au-delà de simplement dire qu'il y avait un logo qui identifiait le... Mais l'adulte a rapporté le livre. Je suis sûr que le gamin aurait lu le livre, il n'aurait même pas remarqué ça, lui. Mais on a le filtre, effectivement, des prescripteurs, des parents, etc. Bon, je dirais, c'est le rôle aussi, hein. C'est pas l'enseignante que j'ai été pendant 37 ans qui va reprocher aux prescripteurs de lire avant de mettre entre les mains de leurs élèves les livres. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de faire lire à mes élèves un livre que je n'avais pas lu moi-même. Ça m'est arrivé, en revanche, de faire des interventions en tant qu'auteur devant des classes où l'enseignant n'avait pas lu le livre.
Une fois, j'ai une mère de famille qui est revenue très en colère parce que la bibliothèque, sa fille avait lu mes premières vacances tout nues, qui est un enfant qui ne veut pas aller avec ses parents dans un camp de naturiste. Bon, ça se termine très bien, voilà.
Oui, mais tu as eu des contraintes sur l'illustration, là aussi.
Ah oui, j'ai eu des contraintes sur l'illustration, oui. Là, je suis monté à Paris pour essayer de défendre l'illustrateur qui avait fait des dessins très, très, un peu latex abri, mais il avait fait les hommes et les femmes adultes aussi, avec un zizi, et là, il a fallu que l'illustrateur remette des plantes vertes devant, c'était infernal, quoi. Mais tout en laissant tout nu les enfants. C'est assez rigolo, asexué. C'est très, très, très marrant.
Asexué. Et l'enfant, il va se percevoir comment?
Pas asexué, non, mais tout nu. Non, les enfants étaient tout nus.
Pas asexué. Non, j'ai dit sexué, pas asexué. Pardon. Oui,
j'avais compris
asexué.
Oui,
oui, non, mais c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de Bayard. Moi, j'ai eu un texte qui a été refusé pour Joe Bookin parce que l'enfant devait ranger sa chambre. La réponse a été. Non, non, c'est un divertissement, il ne faut absolument pas qu'il y ait des contraintes. Donc voilà, donc ça va être refusé pour ça.
Il nous reste une petite dizaine de minutes, même pas. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est bon.
Des femmes?
Non, je ne vais pas parler de ça cette fois. C'était juste une question par rapport... est-ce que vous pensez, en tant qu'auteur, que l'âge, qu'il doit y avoir une corrélation entre l'âge des personnages et l'âge du lectorat? Si vous voyez ce que je veux dire. Une question qui me trotte dans la tête.
Oui, c'est vrai que cette question-là, ça pose souvent. Souvent, on essaye de les mettre un tout petit peu plus âgés, parce qu'on aime bien. Il y a cet côté un petit peu de lecture interdite, lire juste l'âge au-dessus, pour savoir comment se comporte quelqu'un qui a un an ou deux ans de plus que nous, et comme ça change très vite à cet âge-là. Mais longtemps, on a mis beaucoup de temps avant de commencer à écrire un livre où c'est un adulte qui est en scène et qui va être donc lu par un enfant. C'est vrai que ça nous a posé...
T'es dans le problème en ce moment.
Oui, c'est vrai que j'ai un problème en ce moment. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre pendant que Pierre Bordage est en train d'en écrire un autre, mais sur le même monde. Et lui va s'occuper du fils et moi je m'occupe du père. Et pourtant, je vais le publier en jeunesse et lui va être publié en adulte. Mais c'est parce que le fils double le père, parce qu'il va plus vite avec les vaisseaux. Il arrive 20 ans en avance, tout en étant parti après quand même. Vous voyez que ça travaille, hein.
Je pense quand on écrit pour les tout petits, c'est pas mal que les héros aient à peu près l'âge des lecteurs, parce que le jeu d'identification est très puissant à cet âge. À partir du moment où ils ont 10 ans et au-delà, je crois qu'on est beaucoup plus en liberté. Personnellement, je crois que j'ai toujours pratiquement fait des héros qui avaient à peu près l'âge des lecteurs, mais j'aime beaucoup que dans mes histoires, qu'il y ait des personnages de tous les âges, qu'il y ait des relations entre adultes et enfants, entre personnes âgées et enfants, entre enfants d'un certain âge et enfants plus jeunes. Alors bien sûr, il y a un héros, mais souvent, là dans la série que je suis en train d'écrire, il y a énormément de personnages, il y en a de tous les âges. Enfin, la plus jeune a 9 ans, mais il y a un vieil homme, il y a les parents, il y a un jeune sorcier qui est un peu entre les deux, d'une certaine manière. Je trouve ça intéressant parce que c'est au fond une image de ce qu'on vit en société. On est jamais... Les enfants, bien sûr, vivent à l'école entre jeunes de leur âge, mais en dehors de ça... la société, on est tous mélangés. C'est ça qui est bien. Quand on commence à essayer de faire de la ségrégation, justement, c'est épouvantable. Voilà, donc, c'est plutôt mon choix.
Jusqu'à présent, j'ai toujours, dans tous les bouquins que j'ai faits, les personnages étaient plus âgés que le lectorat. Oh, pas beaucoup, mais légèrement plus âgés. Et là, maintenant, je suis en train d'écrire un roman de fantasy young adult, comme on dit. Et là, c'est des jeunes adultes, les personnages. Donc, mais bon, young adult, c'est quoi comme âge, en fait? Donc, de toute façon, je me sens plus libre sur ce bouquin-là. C'est un éditeur, un mec. Bon, on verra sa réaction finale. Et je ne sais pas si je vais me censurer à la fin, d'ailleurs. On verra quand j'en serai à la fin. Mais la fin que j'ai dans la tête, sexuellement, peut... Je sais pas, peut-être que ça peut choquer, j'en sais rien. Donc je sais pas si je vais écrire cette fin-là ou que d'ici là, si j'arrive au bout, j'ai la logique dicte de toute autre chose. Donc voilà, on verra comment l'éditeur, qui a de la bouteille, réagit à ça. Mais donc voilà, là, pour la première fois, c'est grosso modo l'âge du lectorat. Et pour l'autre album, enfin l'autre chose que je vais écrire d'ici peu, c'est pour les petites filles donc de 7 ans, et là, ça sera une petite fille de 7 ans. Donc là aussi, on va faire pour la première fois pile un personnage qu'à l'âge du lectoralisé.
Et en sachant que c'était pas le même éditeur, est-ce que vous avez écrit d'une façon plus contractée
sans... Voilà, c'est un fond macabre et il y a des
mots. Mais ça fait 3 pages. Pour revenir au...
Non, alors c'est ni macabre, il y a un peu d'humour, mais c'est pas spécialement macabre. Oui, je me sens, enfin, je suis effectivement très très libre sur celui-ci, parce que de toute façon, je lui ai fait lire, pour qu'il accepte le bouquin, je lui ai fait lire le début. De toute manière, j'avais déjà écrit un bon paquet de chapitres, Donc il sait où je vais, comment je l'écris, donc il a accepté que j'écris le reste en connaissance de cause quand même. Enfin, ceci dit, sur les deux polars jeunesse, je m'étais sorti fort libre aussi, hein, y a que sur les albums, où, mais c'est peut-être aussi parce que c'est des albums, c'est pas des romans. Donc voilà, y a, je sais pas, c'est peut-être pas seulement les éditrices quand même. Voilà, effectivement. Ceci dit, on a plein de contraintes qu'elles nous demandent, etc. Et on fait toujours autre chose. C'est-à-dire qu'on met un point d'honneur avec Fabrice, on veut faire ça pour le plaisir quand même, hein, faut pas déconner. Et donc on fait quand même jamais que ce qu'on veut. Hein. Alors régulièrement on s'engueule avec l'éditrice, enfin, l'une ou l'autre des éditrices pour obtenir un truc, mais on est suffisamment chiant. On fait bad cop et good cop. C'est généralement moi le bad cop. Et ça marche très bien. on a toujours obtenu, j'ai pas à souvenir qu'on n'ait pas obtenu ce qu'on voulait sur ces six albums, malgré tout.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Je voulais juste intervenir sur les... On parle des réticences des éditrices, mais on peut comprendre certaines. Je vais vous raconter une anecdote. Donc, une éditrice a publié un roman qui se passe à l'intérieur d'un camp palestinien, et à un moment, donc, il y a des enfants, et ces enfants, à un moment, disent « ces salauds de juifs ». Et ce livre est paru comme ça, et à ce moment-là, les organisations juives extrémistes se sont mises sur le coup, ont commencé à manifester devant la maison d'édition, ont commencé à envoyer des menaces de mort, ont dit où cette éditrice habitait, ont pris des photos de ses enfants à la sortie de l'école, et les ont envoyées. Il a fallu que pendant 6 mois, les services secrets français la protègent avant que cette histoire se tasse. Donc, si tu te ramènes après avec un manuscrit qui se passe aussi en Palestine, je crois que toi, elle est vaccinée pour un moment. Donc voilà aussi une disposition, ce qui peut arriver aussi dans certaines maisons d'édition.
J'avais deux questions.
Et je les ai oubliées.
Non, justement, je les ai retrouvées. Il y en a une, en fait, on discute souvent de livres entre nous et on parlait de psychologie dans les livres de jeunesse. On a remarqué que souvent, dans les livres de jeunesse, il n'y avait pas tellement de psychologie, comment on pourrait dire, en gros, le background du personnage principal. Enfin, voilà les livres.
L'anti-héros.
Voilà, il arrive tout formé, on n'a pas de d'évolution, le développement du
l'histoire.
Juste l'histoire et le développement du personnage, on a l'impression que souvent, le personnage
est figé. Il manque de consistance, de...
Figé, oui, enfin, ce qu'il a vécu. Voilà, ce qu'on... En fait, voilà, on a remarqué que souvent, ce qu'il a vécu jusqu'à présent n'a pas forcément marqué, mais je veux dire... des plaies vraiment psychologiques, des blessures profondes.
Bah si je peux me permettre, vous n'avez pas forcément lu les bons bouquins.
Oui, peut-être. Oui. Non, mais je veux dire, mais je veux dire, je prendrai l'exemple qui nous a le plus marqué, et très célèbre, bien sûr, Harry Potter. Il a été enfermé dans le placard pendant 10 ans de sa vie.
Vous n'avez pas lu les bons bouquins.
Mais enfin, je veux dire, et c'est souvent, enfin, on a l'impression que c'est souvent comme ça dans les livres.
Ça dépend des auteurs.
Pourtant, il y a tout souvent dans les livres une quête initiatique du héros. Hein, ça commence à un point A et ça se termine avec un point B et le héros évolue. Alors effectivement, il faut commencer à peut-être pas le temps. Enfin, je veux dire, moi, je sais que j'aime pas écrire des gros livres, mais en même temps, ça m'aide bien. J'ai pas besoin de développer pendant 15 ans ce qu'il était. Puis, si ça vient de ses parents et ses parents, ce qu'ils avaient vécu et tout. Ou alors, à ce moment-là, effectivement, on tombe peut-être dans le milieu adulte où là, on peut se permettre, parce qu'on a 400 000 signes à faire. Lorsqu'on a 100 000, il faut y aller, quoi, tout de suite. Il faut rentrer dans le but du sujet, quoi.
Ouais, mais on trouve toujours, même, excuse-moi, même sur un tout petit bouquin, je pense à Issoum, là, t'arrives toujours, même sur 25 ou 30 000 signes, t'arrives toujours à laisser des traces psychologiques. Enfin, moi, parce que c'est mon dada, mais je suis vraiment plongée là-dedans au niveau de mes personnages. Mais c'est sûr, on retrouve même en très très peu de signes. C'est parce que t'avais envie de t'emmerder.
Oui. C'est sûr.
Dernière.
Est-ce que vous avez eu des échos par rapport à la littérature étrangère de jeunesse? jeunesse par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Parce que j'ai lu un article, par exemple, aux États-Unis, les auteurs de littérature jeunesse ne parlent pas de sans-abri, de violence, de sexe, de... En France, on paraît très prude par rapport aux auteurs de jeunesse de Scandinavie, par exemple. J'avais lu un article là-dessus et je ne sais pas si c'est vrai, si...
Je ne connais pas tous les auteurs américains de jeunesse, évidemment, mais comme je suis aussi traductrice, ben là, je viens de terminer justement la traduction d'un roman fantastique américain où on découvre au fur et à mesure de l'histoire qu'un des personnages dont on parle tout le temps, c'est assez mystérieux, on ne sait plus très bien s'il est là, s'il n'est pas là, on découvre tout d'un coup qu'il est mort d'une façon assez étrange et qu'il laisse penser qu'il s'est probablement suicidé. C'est un garçon qui était visiblement en difficulté, qui avait la rage au fond de lui, que son père battait. On le sait aussi pas insidieusement, hein. c'est pas asséné. Alors, dire que les Américains passent sous silence les problèmes difficiles, je crois pas, parce que ce roman-là, il est, c'est à travers une histoire complètement fantastique, une histoire de fantômes, etc., il fait passer des choses sur la difficulté de vie de certains adolescents très discrètement, mais en même temps très exactement et très fort. Alors, bon, c'est un livre parmi des quantités et un livre que Bayard a sélectionné parce qu'il avait envie de le traduire. Hein, bon, mais je ne crois pas que ce soit, vrai. Je pense qu'il doit y avoir de tout, comme en France, il doit y avoir aussi. On n'a pas lu tous les romans jeunesse non plus, et il doit y en avoir certains qui sont bien pour plan, et puis d'autres qui.
Je vous propose qu'on s'arrête là, de continuer à discuter pendant les dédicaces qui pourraient avoir lieu juste après. On va remercier nos auteurs et puis d'autres tables rondes arrivent très très vite, notamment avec des illustrateurs. Merci à vous.